Bonsoir. L'arrangement particulier n'a pas été signé lundi dernier comme prévu. Et parmi les points de divergence, les acteurs politiques évoquent notamment le mode de désignation du Premier ministre à l'issue de sa rencontre hier mardi avec la CENCO. Le chef de l'État a pris acte de la fin de la mission des bons offices de la CENCO. Il s'engage à trouver une solution consensuelle pouvant débloquer la situation politique actuelle. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mercredi 29 mars 2017. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat le professeur Moïla Chiyembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nancy en France. Professeur, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et bienvenue Joseph Mabondo, il est politologue, auteur de l'ouvrage intitulé « La multipolarisation de l'économie congolaise avec le concours des puissances étrangères ». Monsieur Mabondo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kipo Kajaps de Moba. La CENCO a bien fait de s'en remettre à l'implication du chef de l'État. Et la réaction de ce dernier s'avère impérieuse. La crainte que nous avons est encore une fois le risque de blocage au cas où sa position irait à l'encontre des aspirations de l'opposition qui risque de récuser sa proposition. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur 3W. www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Le président Joseph Kabila prend acte de la fin de la mission des bons offices de la CENCO et s'engage à trouver une solution aux deux dernières divergences entre la majorité et le rassemblement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la CENCO, se confiant à Radio Okapi, après la rencontre d'hier mardi à Kinshasa entre les évêques de la CENCO et le président de la République, ce après l'échec de la signature de l'arrangement particulier lundi à Kinshasa. Pour sa part, la majorité présidentielle affirme que cet échec ne met pas fin à l'accord. La famille politique du chef de l'État réaffirme sa volonté d'aller jusqu'au bout, rappelant qu'à part les deux points d'achoppement, l'accord du 31 décembre reste un bon accord. On écoute à ce sujet le ministre Lambert Mende. Il est l'un des cadres de la MP qui a participé aux négociations directes du centre interdiocésain. Il a été joint par Prédit Lufulobo.
Nous, au niveau de la majorité, nous ne pensons pas que tout a capoté. Nous avons eu un accord. Je pense que les choses se sont bloquées au niveau de l'arrangement particulier sur deux points essentiellement. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec nos interlocuteurs de l'opposition grâce à cette discussion directe à la CENCO. Et nous entendons bien aller jusqu'au bout.
Y a-t-il encore des chances d'appliquer l'accord du 31 décembre?
Oui, monsieur. Nous pensons qu'il y a des chances parce que cet accord a été conclu. C'est dans l'arrangement particulier sur les modalités pratiques concernant la désignation du Premier ministre et celle du président du CNSA que les choses ont capoté, donc on ne peut pas dire que l'accord ne peut plus être d'application. Nous pensons que cet accord est bon et nous pensons qu'on peut l'appliquer.
Le secrétaire général de l'UDPS estime quant à lui que l'accord du 31 décembre est l'unique source de légitimité de toutes les institutions à mandat électif en cette période de transition. Jean-Marc Kabunda Kabound s'est ainsi exprimé hier mardi au cours d'une conférence de presse à la permanence du parti à l'IMETE ici à Kinshasa. Selon lui, la non-application de cet accord de par la volonté du régime en place entraînerait l'illégitimité de tous les animateurs des institutions en RDC. Commentant la fin des négociations directe sous la médiation de la CENCO sans que l'arrangement particulier ne soit signé, le secrétaire général de l'UDPS déclare que c'est la majorité présidentielle qui est à la base de cette situation. Par conséquent, Jean-Marc Kabound invite la population à la vigilance. Augustin Kabouya, le porte-parole de l'UDPS, revient sur l'appel lancé par le secrétaire général de son parti. Il a été joint par Richard Kamunga.
Le secrétaire général, M. Jean-Marc Kabunda Kabound, a félicité la population par rapport à l'action menée aujourd'hui. Il a demandé à la population de maintenir la pression jusqu'au date du 10 avril pour un assaut final en organisant une marche pacifique sur toute l'étendue de la République. Dans son message, il a demandé notre peuple de rester vigilant, de continuer avec la pression, de ne plus baisser le bras parce que au jour d'aujourd'hui, toutes les institutions sont illégitimes. C'est l'accord qui pouvait donner la légitimité aux institutions de la République. Comme cela n'est pas fait, il encourage notre peuple d'accentuer la pression.
Le président Joseph Kabila a reçu les évêques. Il a pris aussi acte des engagements de la CENCO. Si il vous demandait personnellement des négociations directes avec les rassemblements, n'allez-vous pas accepter?
Nous n'avons pas refusé. Nous allons vous dire clairement, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est lui-même qui a permis ça. Aujourd'hui, le pays est en train de traverser une zone de turbulence où il n'y a aucune institution légitime. C'est lui qui est à la base.
Le professeur Moïla Tchiembe, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur, pas de signature de l'arrangement particulier. La CENCO met fin à sa mission des bons offices. Les deux camps se rejettent la balle. Le président prend acte. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Madame, il faut dire que la situation est tout à fait regrettable. On avait espéré que cet accord du Saint-Sylvestre, l'espoir soulevé dans le pays, l'engagement du chef de l'État d'une part et de M. Feu, le président Tshisekedi d'autre part, la communauté internationale s'était ralliée, tous les Congolais espéraient de toutes les forces que les choses allaient se terminer dans le meilleur du monde, c'est-à-dire voir un gouvernement installé, aller progressivement vers la mise en œuvre des moyens et des fins pour tenir le cap des élections. Alors ce qui arrive là est tout à fait étonnant. C'est d'ailleurs la première fois depuis bien longtemps que le président de la République semble avoir perdu la main tout en la récupérant. Je m'explique. Depuis bien longtemps, ici ou ailleurs, nous avons soutenu la thèse que le président de la République, par action ou par discours, n'avait pris le moindre engagement pour violer la Constitution, indépendamment de tous les commérages qu'on avait entendus ça et là. Et nous avions ajouté tout au long de nos débats que le chef de l'État était un résistant à des pressions internes à son propre camp et des pressions extérieures et que l'idée qu'il violerait la Constitution avait paru pour nous tout à fait incongru. Alors, pour la première fois, le chef de l'État, qui avait envoyé ses plénipotentiaires discuter cet accord de Saint-Sylvestre, de deux choses l'une, ou bien il avait posé les conditions qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire il avait souhaité que trois noms au moins lui soient présentés. Dans cette hypothèse, les plénipotentiaires n'ayant pas fait ce qu'il leur avait demandé, on se serait attendu de bonne foi que le président de la République, respectant cet engagement républicain, démocratique, c'est-à-dire qu'on lui propose au moins quelques noms et qu'il ait la liberté de choisir. Alors si ces plénipotentiaires n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire ils ont violé ou à tout le moins n'ont pas respecté l'engagement qu'il leur avait donné, à tout le moins on devrait s'attendre à ce que ou ils les punissent ou qu'ils les réprimandent à tous les moins. Or, dans la mesure où leur avoir confié ce pouvoir de négociation et que dans l'esprit et dans la lettre, il est écrit que le Premier ministre au singulier, en français, le français est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Alors, du moment où les plénipotentiaires de la majorité présidentielle ont souscrit à un accord qui dit que sur le rassemblement qui présente le Premier ministre et le président de la République qui le nomme, il est tout à fait incongru de voir achoper cet accord sur le motif que il lui fallut présenter trois noms. Mais pourquoi alors, si les trois noms c'était l'exigence du chef de l'État, pourquoi les hommes et les femmes qu'il a envoyés pour négocier n'avaient pas exigé que ce soit? Logiquement, on le comprend. C'est le sens républicain, c'est le sens démocratique de laisser au chef de l'État la possibilité de désigner.
Ils évoquent l'article 78 de la Constitution.
Mais alors, madame, pourquoi ceux qui sont allés négocier à la CENCO n'ont pas exigé comme préalable ces trois noms? Parce que du moment où officiellement on a signé pour une désignation d'un Premier ministre, un candidat Premier ministre, nommé par le chef de l'État, j'avoue que on a des difficultés à comprendre pourquoi ces éminentes personnalités distinguées, anciens ministres, tous ceux qui sont allés négocier, mon Dieu, sont sur lorsqu'on compare les meilleurs des Congolais dans le camp d'en face.
Au vu de tout ce qui s'est passé tout au long de ces travaux, professeur, est-ce qu'il fallait s'attendre à ces résultats?
Non, on ne pouvait pas s'attendre à ce résultat. Madame, vous savez, la situation dans laquelle se trouve ce pays, la République démocratique du Congo, et tout ce qu'on a craint. Il y a eu le sang qui a été versé dans ce pays pour que on ne prenne pas, à la légère l'engagement de la nation. Le président de la République est le garant de la nation. Il est au-dessus de tous les Congolais, même si tout le monde sait qu'il est le chef de la majorité actuelle. Mais dois-je rappeler à tout le monde que le président de la République a toujours été élu comme candidat indépendant pour être au-dessus de la mêlée. Donc, il ne peut pas être confisqué par un camp, quelles que soient d'ailleurs les prétentions de ceux qui sont dans la majorité présidentielle. Alors, le fait que il ait répété, monsieur le président de la République, plus de deux fois à la CENCO qu'il tient absolument à ce qu'on lui propose trois noms, c'est une grande surprise quand on connaît le président Kabila. Ou alors, il avait lui-même cette exigence, alors pourquoi ces hommes et femmes qui sont allés négocier n'ont pas tenu? Ils auraient pu demander au rassemblement de proposer trois noms. Tout le monde serait d'accord pour que le rassemblement le fasse.
Merci, professeur Maïla Chimbe, professeur Félicien Kabamba. Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, votre lecture à vous par rapport à cette situation regrettable, comme l'a dit le professeur Maïla Chimbe.
Bien sûr que oui, c'est une situation extrêmement regrettable. Il faut avouer ici que la classe politique congolaise avait minimisé l'ultimatum de la CENCO et il me semble que la CENCO a choisi de se retirer à un moment opportun. D'abord, la CENCO a compris qu'elle était prise en dérision par la classe politique et ensuite la CENCO prenant appui sur le cas de Edem Kodjo qui n'avait pas voulu partir alors que les différents protagonistes, au moins certains, ne voulaient plus de lui, eh bien, la CENCO s'est dit, eh bien, pour le moment, je suis arrivé à un moment où il faut que je me retire. Et il faudrait donc éviter que la CENCO soit mise dans le même panier qu'Edem Kodjo. Elle ne voulait pas non plus continuer à renifler cette puanteur d'une classe politique qui, à mon avis, manque d'inspiration, et donc elle a choisi de partir. Alors, toute la question qui se pose, c'est qu'après le départ de la CENCO, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est une question qui me semble très importante. Alors, quand vous regardez bien, les discours qui avaient été développés tant par la majorité que par l'opposition étaient que la crise actuelle ne peut se résorber que par le dialogue. D'ailleurs, si vous regardez dans la ville de Kinshasa, il y a de nombreuses banderoles qui ont été déployées avec des inscriptions du genre « Dialoguons pour le bien du peuple congolais ». Mais en fait, tout cela apparaît aujourd'hui comme étant une véritable distraction comme la poudre aux yeux, avec les derniers développements que prennent évidemment ces dialogues. Et donc, c'est quand même très regrettable parce que finalement, comme on l'avait déjà dit par le passé, le dialogue politique en République démocratique du Congo apparaît non pas comme une règle, mais comme une exception, c'est-à-dire on recourt au dialogue comme une solution ultime à une apocalypse politique. Et quand on a senti que l'apocalypse venait, c'est alors qu'on réunit les gens pour le dialogue. Il est très difficile dans ces conditions-là d'attendre d'un tel dialogue de résultats durables et qu'un tel dialogue soit une solution appropriée à la crise du pays. Mais quand même, si vous regardez les stratagèmes des uns et des autres, vous sentez également qu'il y a une très très grande différence entre les stratagèmes de la majorité et les stratagèmes de l'opposition. Et ces divergences étaient que il était très difficile que les deux parties arrivent à un accord. Pour la majorité, donc la majorité tournait autour de la question du pourrissement, de la variable temps. Donc le temps pour organiser les élections, le temps qui fera apparaître les clivages au sein de l'opposition. D'ailleurs, quand vous regardez, aujourd'hui, l'opposition semble voler en éclats et donc le temps a joué aujourd'hui en faveur de la majorité. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans la plupart du temps, les dialogues qui ont été organisés au pays, ces dialogues débouchent sur une sorte de d'érosion de la crédibilité de certaines franges de l'opposition. Et donc, à chaque dialogue, il y a une frange de l'opposition qui est discréditée. Et donc, cette variable temps, cette variable pourrissement de temps a été, si vous voulez, capitalisée par la majorité, eh bien, dans la réalisation de sa stratégie de combat politique. Alors, mais du côté de l'opposition, je ne semble pas voir véritablement une stratégie beaucoup plus claire, parce que au départ, l'objectif de l'opposition était absolument de faire tout pour que les élections se tiennent à la fin de cette année, quitte à accorder peu d'importance aux positions de pouvoir durant la transition. Alors là, avec les nouvelles prises de position, je ne semble pas véritablement voir sur quelle carte l'opposition semble jouer. Elle risque là de jouer le rôle de la majorité sans bien se rendre compte. Et d'ailleurs, quand vous regardez, les évêques avaient déjà prévenu la classe politique que la confiance mutuelle était une condition indispensable pour la réussite de ces dialogues. Et quand vous suivez les déclarations des uns et des autres, même pendant les dialogues, il n'y avait pas du tout de confiance mutuelle. Mmh.
Il y avait une méfiance.
Beaucoup de suspicions que toutes les parties ont précédées.
Alors, professeur, le président Joseph Kabila dit prendre acte de la fin de la mission des bons offices de la CENCO et s'engage à trouver une solution consensuelle pouvant débloquer la situation politique actuelle. Mais il y a une certaine opinion qui se demande vraiment si la solution viendrait du président Kabila lorsqu'on sait que l'opposition dit que c'est lui le problème.
Alors, toute la difficulté est bien celle-là. Nous ne savons pas comment le chef de l'État va résoudre les divergences que la CENCO n'a pas su résoudre. Tant il est vrai que lors de dernières rencontres avec les évêques, il avait renouvelé l'exigence de la liste des candidatures à la primature. Mais on entend également voir si le chef de l'État va mener les négociations directes sans médiateur avec l'opposition ou si il va utiliser d'autres biais. Donc, on a là difficile à imaginer le schéma que le chef de l'État va devoir emprunter.
Merci.
Mais quand on essaye de lire les derniers communiqués de la présidence de la République, qui nous précise que le chef de l'État va s'adresser au Congrès, alors là, c'est là que j'ai un peu plus peur. Parce que les dernières fois que le chef de l'État s'est adressé au Congrès, il a eu plutôt un langage qui n'a pas été très conciliant vis-à-vis de l'opposition. J'ai peur que les personnes qui préparent avec le chef de l'État son discours soient véritablement assez radicales et que les discours du chef de l'État n'aillent pas dans le sens d'une grande conciliation comme les deux précédents discours.
Merci, professeur.
Et donc, il y a là
beaucoup
plus de peur à...
Merci professeur Kiabamba. Bienvenue Joseph Mabondo, vous êtes politologue et auteur de l'ouvrage intitulé « La multipolarisation de l'économie congolaise avec le concours des puissances étrangères ». Quelle est votre analyse à vous par rapport à cette situation ?
Merci Céline. J'ai commencé d'abord par dire que dans mon ouvrage que vous avez cité, j'avais bien dit que les bonnes négociations ne pouvaient se passer qu'entre quelques personnalité du pays.
On a un souci avec votre ligne, M. Mabondo, essayez de bouger un peu pour que les réseaux s'améliorent.
Oui, je disais que dans mon ouvrage, j'avais bien dit que les négociations ne devaient se passer qu'entre quelques autres personnalités du pays, c'est-à-dire le chef de l'État, le défunt combattant Tshisekedi, le cardinal Monsengo, Moïse Katumbi, donc juste quelques personnalités, associées beaucoup d'autres personnes qui parfois sont des amis à la cité, c'est rien du tout. Donc j'étais déjà pas content de voir encore des négociations entre des personnes en réalité qui ne sont pas ennemies, mais qui se retrouvent toujours quelque part pour prendre un petit verre. Donc là c'était un petit théâtre à mon avis. Ce sont ces 4-5 personnalités qui pouvaient réussir à négocier et ensuite demander aux autres de préparer juste les modalités d'application. Et les personnalités devaient s'asseoir et résoudre le problème du pays.
Alors, Monsieur Mabondo, on va essayer de vous rappeler parce que là, on vous entend pas très bien. La réalisation va essayer de vous rappeler. Professeur Moïla, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Je suis Ngombo Augustin Jokwani, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. Les évêques ont raison de déclarer solennellement la fin de la mission des bons offices leur confiée par le chef de l'État. Ils ont bien fait leur travail et même si cela n'a pas abouti suite au manque de volonté des acteurs politiques. Au rassemblement, nous disons de faire une analyse profonde en vue de réorienter leur lutte. La majorité a compris ses faiblesses et suite à la mort de Fay Etienne Tshisekedi, elle a développé des moyens pour affaiblir le rassemblement. Écoutez, il y a division au sein des plans de forme, la guerre de leadership et l'application tardive de l'accord du 31 décembre en vue de priver le rassemblement des moyens conséquents pour préparer les élections qui se pointent à l'horizon. Au président de la République, nous disons de savoir qu'il est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Tout ce désordre ne lui est pas profitable. Il lui appartient d'appliquer l'accord du 31 décembre, seule source de légitimité des actuelles institutions de la République.
Professeur Moïla.
Ben, je pense que notre ami de Kinshasa parle comme beaucoup de Congolais qui sont totalement effarés de constater, je ne sais pas s'il y a encore des mots, est-ce qu'on peut parler de la médiocrité, est-ce qu'on peut parler de la défaillance de la classe politique congolaise, je ne sais pas s'il y a encore des mots par politesse qu'il faille utiliser. Parce que le pays est dans une situation difficile. Les politiciens, comme d'ailleurs la Cinco l'a rappelé, on dirait que les politiciens congolais ne voient pas où est le pays et quels sont les, comment dirais-je, les mots qui pèsent sur les populations, sur l'avenir du pays, sur l'économie, sur la pauvreté des Congolais, sur les violences qui enflamment le pays. Et tout ceci, pour les politiciens, ça ne compte pas. On ne peut que être effaré. Mais concernant le fin de l'argument de notre ami de Kinshasa, bien sûr l'opposition est divisée. La mort de Etienne Tshisekedi laissait entrevoir ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, les politiciens congolais nous ont déjà habitués à ce genre de choses. Alors la majorité, le président, moi je pense que la seule garantie que nous puissions avoir, c'est que le président de la République, je le disais tout à l'heure, est le garant de la nation. Il y avait deux personnalités pour la paix. Il y avait le chef de l'État, le garant, au sens institutionnel du terme, et le chef de l'opposition, Feu Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui que M. Tshisekedi n'est plus là, tous les espoirs du pays reposent sur les bras, sur les épaules du président de la République pour montrer le chemin, et pour montrer qu'il ne peut pas vaciller et que c'est lui seul aujourd'hui qui doit montrer la direction. On peut espérer que dans ce discours devant les chambres que tout le monde attend, sera un moment de bonheur pour le Congo de voir appliquer enfin cet accord qui doit préparer les élections pour qu'elles soient voulues, désirées, dans la paix, dans la prospérité. C'est tout le bonheur que tous les Congolais attendent.
Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir, aujourd'hui le président dit qu'il va trouver une solution consensuelle pour débloquer la situation politique. Pourquoi il n'a pas fait à travers ses délégués à la SANCO?
C'est la question que tout le monde se pose. Jusqu'à présent, le chef de l'État a résisté dans son propre camp. Vous savez, madame, il y a ce que j'ai appelé naguère les néo-mobutistes. Les néo-mobutistes, il y en a dans la majorité, il y en a dans l'opposition. Ce sont des groupes de personnes distinguées, patriotes, qui aiment leur pays, mais qui ont des stratégies différentes. Lorsque le chef de l'État avait proposé la main tendue, le dialogue, il faut bien avouer que beaucoup de gens dans la majorité présidentielle n'étaient pas d'accord avec le chef de l'État. Lorsque Étienne Tshisekedi a pris la main du chef de l'État pour proposer le dialogue, très peu de gens dans l'opposition étaient d'accord avec lui. Donc on avait là deux personnalités qui, contre vents et marées, dans leur propre camp, ont voulu imposer ce dialogue pour que, en transcendant les différends entre les deux camps, que l'intérêt supérieur du Congo puisse triompher. Mais aujourd'hui, l'un des partenaires à ce dialogue n'est plus là. Ma foi, il ne reste que le président de la République que nous implorons, ici ou ailleurs, de savoir raison garder, comme il a fait jusqu'à présent, de ne pas céder à ce chantage d'une bonne partie de sa majorité et encore moins d'une bonne partie de l'opposition, parce que les néo-mobutistes, on les a et dans la majorité et dans l'opposition.
Merci professeur. On me signale que M. Mabondo est en ligne. Vous nous entendez, M. Mabondo? On l'a encore perdu. On va essayer encore une fois de le retrouver. Le professeur Félicien Kabamba, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Kikwit.
Grâce à l'acte dans la province de Kwilu, ville de Kikwit, le président de la République est l'acteur principal de cet échec pour n'avoir pas débloqué les deux points restants. Sinon, qu'il prouve sa bonne foi maintenant.
Professeur Félicien Kabamba.
Bon, alors, je crois qu'il est difficile d'anticiper ce discours du chef de l'État. Il a certainement des recettes et nous attendons que lors du discours qu'il va tenir devant le Congrès, il puisse présenter ses recettes. Et donc il est très difficile aujourd'hui d'anticiper, peut-être qu'il pourra surprendre très agréablement toutes les parties prenantes. Et donc il y a là des grandes attentes, nous avons tous le regard tourné vers le chef de l'État pour voir comment il entend dénouer la crise, parce que là il faut dire que le dialogue risque, si vous voulez, d'être suivi d'un épisode de violence. Et pourtant, le dialogue est un mécanisme de prévention de la violence. Il faut absolument qu'après cette phase, cet épisode de dialogue, que nous ne puissions pas basculer dans un autre épisode de violence.
Est-ce que, comme l'a dit cet auditeur, le président de la République est l'acteur principal de cet échec?
Alors, il y a une responsabilité qu'il partage, d'abord parce que il aurait pu organiser les élections dans le délai, ça n'a pas été fait, et donc tout est parti de là. Et il est aussi chef d'une composante, c'est-à-dire il est l'autorité morale de la majorité, et donc du coup, comme la majorité a aussi été un acteur du blocage, et d'une manière ou d'une autre, la majorité répondait, si vous voulez, de son autorité morale, et donc il partage d'une manière ou d'une autre la responsabilité avec la majorité.
Merci professeur. Monsieur Mabondo, est-ce que vous êtes en ligne? Monsieur Mabondo? Alors, on a encore perdu Monsieur Mabondo. On va encore tenter une fois de le retrouver. Professeur Félicien Kabamba, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit et beaucoup d'observateurs même qui disent, se demandent, c'est vrai, le président a pris acte de la fin de la mission des bons offices de la CENCO. Est-ce que cela peut rassurer de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Eh bien, ça fait rigoler. Mais évidemment, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est que pourquoi il a accepté le retrait de la CENCO? Il aurait pu le relancer. Il aurait pu demander aux évêques de revenir sur leur position, c'est-à-dire de reprendre les négociations avec toutes les parties prenantes, avec l'assurance que cette fois-ci sera la bonne. Mais apparemment, il a compris que les évêques étaient probablement fatigués, et il a dit, ok, j'accepte que vous puissiez vous retirer, vous aviez déjà fait le 98% du travail, le 2% qui reste, moi, en tant que garant de la nation, je vais devoir m'assumer. Mais dire qu'on va revenir vers l'accord du 18 me semble un tout petit peu risqué, étant donné que même les signataires de l'accord du 18 ont également signé l'accord de la Saint-Sylvestre, enterrant de ce fait l'accord du 18 octobre. Et donc, il me semble bien qu'il ne faut plus parler aujourd'hui de l'accord du 18 octobre, qui est un accord qui n'était pas inclusif, alors que celui-ci l'est plus ou moins, et il pose seulement un certain nombre de petits problèmes. D'ailleurs, le problème, on parle seulement de deux. Si ces deux questions sont réglées, et je crois que l'on pourra être tout content de pouvoir trouver un accord auquel toutes les parties prenantes ont souscrit.
Alors, Kipo Kajaps dit ceci, le grand travail qui attend le chef de l'État est de se mettre autour d'une même table avec quelques têtes du rassemblement afin qu'il y ait des concessions des parts et d'autres des deux comme en composition et majorité. La tâche n'est pas facile avec la classe politique congolaise.
Oui, bien entendu, il faut absolument qu'au-delà du dialogue, qu'il y ait un contact physique entre l'autorité morale de la majorité et l'autorité morale de l'opposition, même si évidemment il y a Étienne Tshisekedi qui a disparu, mais il me semble pour le moment qu'il y a Félix Tshisekedi qui a été accepté comme étant le fils, donc le chef des files de l'opposition. Une rencontre entre les deux partis peut probablement se présenter comme étant une alternative, comme étant, si vous voulez, un début de solution à la crise actuelle née de ces deux points de blocage.
Merci, professeur Félicien Kabamba. On n'a toujours pas monsieur Mabondo. On tente de le recontacter. Professeur Félicien, il y a Franck qui nous écrit de Kinshasa. Il demande pourquoi avoir attendu que la SENCO arrête avec ses bons offices pour annoncer, pour que le chef de l'État annonce qu'il va intervenir et essayer de trouver la solution.
Mais en fait, il faut dire aujourd'hui que avec le retrait de la SENCO, c'est un coup dur qui a été donné à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, vous savez que à partir du moment où l'échec du dialogue est annoncé, on peut se retrouver devant deux options. Soit on continue à dialoguer, soit on verse dans la violence. Et quand vous suivez bien le langage de l'UDPS, l'UDPS est déjà en train d'appeler à la prise de conscience, si vous voulez, à la manifestation d'adeptes. Et donc, du coup, on craint que nous puissions là être entraînés dans une impasse démocratique. Et ce qui est là, il y a un risque que personne aujourd'hui ne veut courir. Il faut absolument que le dialogue continue, mais en prenant une nouvelle forme, étant donné que les évêques de la SENCO ont arrêté, évidemment, leur médiation.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Professeur Moïla, la majorité présidentielle charge les rassemblements de pouvoir bloquer les négociations. Est-ce que cette attitude de l'opposition de rester cramponnée sur sa position de présenter 3 noms peut être justifiée? Est-ce qu'elle ne peut pas faire des concessions et présenter 1 nom afin que la situation puisse se débloquer?
Mais vous savez, madame, lorsqu'on signe des pactes, lorsqu'on signe des accords, on doit s'entendre préalablement sur ce que l'on signe. Dans le document qui a été signé, il est clairement dit que le Premier ministre vient du rassemblement. C'est acté, c'est indiscuté. Et il est même dit également que c'est le rassemblement qui présente le candidat Premier ministre et c'est le chef de l'État qui le nomme. C'est au singulier. Donc,
le communiqué de la présidence est revenu sur ça pour dire que c'est le rassemblement qui doit présenter le candidat.
Ben, c'est exact, mais le problème se pose sur la deuxième conditionnalité qui n'est pas dans l'acte, dans l'accord qui a été signé. Dans l'accord, il n'est pas demandé au rassemblement de présenter 3 candidats à partir desquels le chef de l'État, dans sa mission régalienne de nommer, aurait dû choisir. Je pense que l'argument sur le fond tient la route. Mais seulement, voilà, il y a un décalage entre ce qui a été négocié, un candidat Premier ministre nommé par le chef de l'État présenté par le Rassemblement, c'est ça le texte, l'esprit et la lettre. Et maintenant, lorsqu'on découvre que, effectivement, dans ce bras de fer, le président de la République, d'après l'argument de la majorité, on lui priverait de la possibilité de faire un choix régalien, ce qui est constitutionnel, on reste un peu baba. Parce que si tel était le cas, pourquoi ces hommes aguerris de la majorité qui sont allés négocier, il n'y a pas eu de petits-enfants à la négociation, pourquoi n'ont-ils pas obtenu du rassemblement que ce soit les 3 noms à proposer au chef de l'État pour préserver son pouvoir de nomination, c'est-à-dire le choix, plutôt que de dire le rassemblement présente le candidat Premier ministre nommé par le chef de l'État au singulier. Alors, si on revient 3 mois après sur ce qu'on avait déjà dit et signé, il y a là quelque chose de tout à fait étonnant. Même si
on... Mais là, on est devant un problème, professeur.
Mais madame, on est devant un problème et que ce n'est pas un problème insoluble. Là où il y a des bons esprits, il y a de part et d'autre de l'échiquier de l'État, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, dans la majorité, et dans l'opposition. Alors, on ne peut pas comprendre que tout soit jeté à l'eau. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Même si on ne s'est pas entendu, on peut souhaiter que, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, que chaque parti, chaque camp puisse se sublimer, et surtout que le président de la République, qui n'est pas seulement la majorité, qui est le garant de la nation,
lui, il doit voir loin. Il nous a donné la preuve qu'il peut voir loin. C'est pour cette raison qu'il y a lieu de fonder, de l'exhorter une fois encore, d'être au-dessus de la mêlée, de penser au pays plutôt qu'à sa propre majorité, quelle que soit par ailleurs la légitimité de ceux qui pensent à tort ou à raison qu'on aurait dû lui donner la possibilité par les noms de choisir. Mais il faut prendre les choses telles qu'elles viennent et l'intérêt du pays milite en faveur d'une solution rapide à cette question pour ne pas éternellement bloquer le pays. Le président a répété mille et une fois que l'intérêt c'est d'aller aux élections. Je ne vois pas comment on peut aller aux élections sans un gouvernement, même au-delà du gouvernement. Il y a le social des Congolais, le chef de l'État l'avait déjà rappelé, ces sociales de Congolais demandent un gouvernement. Alors il y a là l'insécurité dans le pays. On n'est pas un petit enfant pour rappeler ce que l'on voit et ce que l'on fait. Donc par conséquent, il y a une urgence extrême qu'une solution soit trouvée. On peut faire confiance au chef de l'État pour que, au nom de la nation, il supplante les contradictions de sa propre majorité et de l'opposition pour sauver le pays et sauver cet accord.
Merci professeur Maïla, professeur Félicien. On me dit que monsieur Mabondo, et on lit monsieur Mabondo, vous nous entendez?
Oui, madame.
Voilà, on a eu un problème sérieux avec votre ligne. Alors, vous disiez que vous vous proposiez déjà au départ que les chefs, qu'il y ait juste une rencontre entre quelques personnalités de la République.
Oui, je l'avais proposé il y a bien longtemps, mais pour le moment, je crois que ce n'est plus d'actualité parce que l'esprit est insisté qu'il y a déjà passé et n'est plus en vie. Donc, pour l'instant, je me dis que face à la situation actuelle, tout ce que l'opposition peut faire, c'est laisser la majorité rester au pouvoir parce qu'il ne nous reste plus que 9 mois. D'ici au 31 décembre, il ne nous reste plus que 9 mois. Je pense, à mon avis, que l'opposition peut demander à la population de se calmer et laisser la majorité organiser les élections. Et on les met devant la responsabilité jusqu'à décembre, à mon avis. Je crois qu'à un moment donné, il faut laisser les choses évoluer qu'elles sont là.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction, M. Mabondo, qui nous vient de Mbandaka.
Kevin Ikoka, j'appelle depuis Mbandaka. Moi, je me dis que le chèque de bons offices de la CENCO ne doit pas être vu comme la fin des discussions politiques. Nous avons déjà eu un accord, et cet accord reste la seule feuille de route pouvant sortir le pays dans l'impasse. La violence n'étant pas une bonne décision. Cependant, je me pose la question de savoir pourquoi le président de la République devrait-il attendre l'échec de la mission des évêques pour s'impliquer personnellement? N'était-il pas une stratégie de faire passer le temps en vue d'élargir son glissement? Le rassemblement ne remettra-t-il pas en cause sa crédibilité du fait qu'il constitue lui-même une partie des problèmes à résoudre?
Monsieur Mabondo, oui. Comment vous réagissez à ce que cet auditeur de Bandaka vient de dire?
Oh, il dit que la violence ne va rien résoudre, c'est bien. Et il pense aussi que les chefs ne devaient pas attendre l'échec de la CENCO pour dire qu'il va trouver une solution. Mais à mon avis, je le dis encore, que normalement, le chef de l'État, à ce stade ici, il n'a normalement que 9 mois encore comme chef de l'État. Parce qu'on avait dit dans cet accord que c'est à la fin du mois de décembre. Donc pour le moment, au lieu de continuer encore à négocier l'application de cet accord, alors qu'il ne nous reste que 9 mois, on a déjà épuisé 3 mois, tout ce que l'opposition peut faire, c'est dire, ok, il n'y a pas de problème. C'est la CENI qui organise les élections, ce n'est pas le gouvernement. Pourquoi devons-nous entrer dans un gouvernement de 9 mois? Pourquoi? Alors, préparons-nous pour les élections. Allons-y sur le terrain. Monisco et communauté internationale, soutenez-nous pour que ce soit des élections transparentes et crédibles. C'est tout. Allons-y sur le terrain. Ceux qui sont là, qui organisent les choses, on va voir. C'est aussi, à un moment donné, les mettre devant les responsabilités. C'est tout. Et le reste, on verra dans 9 mois. Si rien ne fait, c'est en ce moment-là qu'on peut dire, cette fois-ci, c'est le ras-le-bol. Mais pour le moment, négocier encore pour entrer dans un gouvernement de 9 mois, ou même de 8 mois, parce que dans quelques jours encore, on va commencer à parler de 8 mois, et puis 7 mois, à mon avis, il faut laisser tomber.
Alors, Kipoxa, plutôt Kevin, estime que cet accord reste la seule feuille de route qui peut sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve.
Oui, mais l'accord est déjà là, parce que c'est l'accord qui a accepté que le chef soit pour jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année. c'est le même accord. Mais tout ce qui bloque maintenant, c'est le gouvernement. Donc, si on va encore aller négocier pour le gouvernement pour 9 mois, je ne vois pas. C'est inutile. On ne peut pas entrer dans un gouvernement pour 9 mois. Les opposants ne sont pas là pour travailler pendant 9 mois, à moins que ce soit pour voler. Donc, eux aussi doivent se dire, ok, si ce n'est que pour 9 mois, il ne va pas. Nous passons sur le terrain. Nous sommes opposants, nous pensons que nous sommes populaires. Allons-y sur le terrain, que les élections soient transparentes, de mettre la MONUSCO devant ses responsabilités, la communauté internationale, organiser les élections, c'est la CENI. Mettez des observateurs partout. Je pense qu'à mon avis, en ce moment ici.
Et donc, vous estimez, M. Mabondo, qu'à ce niveau, il n'y a pas de solution. Pour vous, la solution, c'est de laisser la majorité gérer les affaires jusqu'au mois de décembre.
Oui, mais mettez devant leurs responsabilités qu'ils organisent les élections. Dans beaucoup de gouvernements du pays à travers le monde, c'est le pouvoir en place qui organise. Ils organisent, ils montrent que ça va être transparent, c'est tout. Et le peuple va juger.
Merci, M. Mabondo. Professeur Félicien Kabamba, que pensez-vous de cette proposition de M. Mabondo, qui estime que la solution aujourd'hui, c'est de laisser la majorité gérer jusqu'au mois de décembre, et puis après, on va juger?
Non, je crois que l'esprit du dialogue n'était pas, et de l'accord n'était pas celui-là. L'esprit du dialogue, donc de l'accord, c'était que devant la situation d'illégitimité de tous les actes, donc de toutes les institutions politiques, il fallait que la transition soit une affaire de tout le monde. Et donc, du coup, la majorité allait composer avec l'opposition ainsi que la société civile. C'est dans cet esprit-là que l'accord a été rédigé. Et donc, du coup, aujourd'hui, il est difficile de revenir en arrière pour dire qu'on va laisser la majorité. Agir ainsi, c'est carrément enterrer cet accord. Parce que l'accord a été conçu dans un esprit de cohésion nationale. On s'est dit, c'est vrai, on est devant une crise, mais on doit résoudre la crise. Et les mécanismes de résolution de la crise sont des mécanismes qui ont consisté à mettre en place un gouvernement d'union nationale et non pas un gouvernement de la majorité. Et de ce point de vue, on ne peut pas revenir en arrière et dire on laisse la majorité aller tout seul. Mais tout le problème qui se pose aujourd'hui,
mais
c'est comment arriver à mettre
bloqué
en place le gouvernement. Alors, la peur que nous avons aujourd'hui, c'est que le dialogue de la Saint-Sylvestre va-t-il résorber la crise ou alors il va l'exacerber. C'est pourquoi tout le regard reste aujourd'hui tourné vers le chef de l'État. Le chef de l'État, il faudra bien le rappeler, qui est à la fois chef d'une composante, donc d'une majorité, mais qui est aussi le garant de la nation. Et en tant que garant de la nation, il devra donc ne pas seulement se considérer comme chef d'une composante, mais agir comme garant de la nation dans le sens de sortir le pays de la crise.
Et donc la solution, c'est le chef de l'État qui l'a aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, lui-même, il a dit qu'il allait s'adresser au Congrès. Ça veut dire qu'il a une solution dans sa poche. C'est donc cette solution-là que toute la population attend. Parce que aujourd'hui, la CENCO a déjà jeté l'éponge et lui a accepté, bien entendu, que la CENCO se retire. Parce qu'il a accepté et il a dit, les deux questions qui restent, moi-même, je vais m'impliquer pour trouver une solution. Et de ce point de vue, comme il a accepté de s'impliquer pour trouver une solution, ça veut dire qu'il a probablement un scénario en poche. Donc ce scénario-là que nous attendons voir tous.
Merci, professeur Félicien Kabamba. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Professeur Moïla Tchiembe, la solution se trouve dans la poche du chef de l'État.
Oui, madame, le président de la République est le garant de la nation. C'est au pied du mur que l'on voit le maçon. C'est maintenant que nous devons savoir, et le pays dans le monde, quelle est cette faculté de garant de la nation qui lui reste encore dans l'esprit et dans la peau pour pouvoir sortir le pays de ce moment difficile. Je pense et nous pensons qu'il en a la capacité et c'est à lui maintenant d'en faire la démonstration en sauvant le pays d'un chaos prévisible.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Bienvenue, Joseph Mabondo. Votre conclusion?
Ma conclusion est que si le chef de l'État pense vraiment qu'il va résoudre le problème, eh bien, il le fasse. Mais à mon avis, je ne vois pas avoir peur de nommer n'importe quel opposant, même pour moi ici, comme Premier ministre. S'il nommait aujourd'hui Félix Tshisekedi ou un autre opposant, qu'est-ce que cet opposant fait pour y ravir le pouvoir en 9 mois? Donc il peut aussi, normalement, face sans problème, nommer un premier ministre, n'importe qui qu'il soit. S'il ne le fait pas, moi, à mon avis, je les répète, qu'on les laisse organiser les élections jusqu'à fin décembre. Et on se trouvera.
Merci, Monsieur Mabondo. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté, Alain Rung, sous la supervision Berry Fontaine Luchaka, sous la supervision de Pelé, qui paie la Mondo. Merci à André Mongou qui était à la prise des sons au micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, rediffusion 4h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.